Bonsoir à tous et bienvenue à la station T. Exceptionnellement, j'ai une annonce à vous faire avant de nous plonger dans l'épisode de cette semaine. Mardi prochain, la station T accueillera un nouveau concept sobrement appelé Collection. La collection sera, comme son nom l'indique, une collection d'au moins 3 histoires d'horreur. Oui, vous m'avez bien entendu, au moins 3 histoires. Chaque collection aura son assortiment d'histoires plus ou moins longues, et notamment certaines histoires qui ne rentraient justement pas dans la programmation habituelle, car trop longues pour rentrer dans une cassette et trop courtes pour faire un épisode. Ces histoires auront maintenant une place. Et je vous garantis que chacune de ces histoires sera aussi immersive que vos épisodes habituels. Bien évidemment, cela n'aura aucun impact sur le programme habituel, et vous pourrez écouter une cassette le lundi et le vendredi, et votre épisode habituel le mercredi. En revanche, les collections, elles, ne seront pas publiées chaque semaine pour le moment, j'en ai bien peur. Mais je vous rassure, quand une collection sera prête à être diffusée, vous en serez informé par moi lors d'un épisode comme celui-ci. J'espère que vous apprécierez tous ce nouveau concept. Et pour terminer cette annonce, qui est de loin la plus longue depuis la toute première diffusion, j'en profite pour vous remercier vous tous, mes chers auditeurs, qui chaque jour êtes de plus en plus nombreux à m'écouter. Je vous promets que ceci n'est que le début, et que la station va continuer de grandir avec vous. Et maintenant, plongeons-nous tous ensemble dans l'histoire de ce soir. L'existence d'un univers parallèle au nôtre a d'abord été un sujet de fiction, mais depuis les progrès scientifiques et l'avancée des théories des dernières décennies, cette fiction est devenue une réalité. L'existence d'un ou de multiples et même d'infinis univers parallèles où les lois de la physique et de la rationalité sont différentes, laisse rêveur. Tellement de possibilités. Je suis un concierge, et j'ai accidentellement participé à l'expérience sur les vortex de Harvard. Une histoire de N.S. Lewis. Ils m'ont donné $1 million pour que je me taise. Et je l'ai fait. Pendant 15 ans. Mais hier soir, je faisais ma tournée et j'ai revu le professeur. J'ai eu une crise cardiaque il y a 3 ans. Et je vous le dis, quand je l'ai vu, debout, devant la salle 204, j'en ai senti une autre arriver. Il s'est retourné et a souri. Et c'était comme s'il n'avait pas vieilli d'un jour en 15 ans. « Et là, chef » a-t-il dit. Et c'était tout. J'ai laissé tomber mon presse-papier sur le sol, et je suis parti à toute vitesse sans me retourner. Ce que je vais vous dire risque de me faire paraître plus fou qu'une chèvre à 3 cornes. Mais je vous promets qu'il y a des choses plus folles dehors. Les flics ne me croient pas. L'histoire officielle est que le professeur et ses étudiants sont morts il y a 15 ans. La chambre 204 a simplement explosé, selon eux. Et il y a une part de vérité. Cette pièce a bien explosé. Mais ce n'était pas un accident. Nous savions exactement ce que nous faisions. Ou du moins, on le pensait. Il m'appelle assistant superviseur de la maintenance. Mais en fait, je suis concierge, et je l'ai toujours été. Vous vous demandez peut-être pourquoi je suis encore là après avoir reçu $1 million. Ce pognon est pour mon fils, Junior, pour qu'il n'ait pas à subir la même merde que moi, et qu'il ait assez de cash pour disparaître du jour au lendemain, si nécessaire. La nuit où c'est arrivé, j'étais affecté au centre d'astrophysique, un peu au nord-est du campus principal de Harvard. Jusqu'à cette nuit, c'était toujours mon secteur préféré. Je veux dire, que Dieu vous aide si vous vous retrouvez dans un de ces autres laboratoires de biologie. Ces maudits animaux morts et ouverts partout me donnaient des cauchemars. Mais maintenant, en y repensant, je préfère ces cauchemars d'organes mutilés et éparpillés à ceux qui me hantent depuis. Bref. Je passais la serpillière dans le couloir du deuxième étage du bâtiment des laboratoires, quand la porte de la chambre 204 s'est ouverte. Et que ce type a sorti sa tête. Hé, hey, vous ! J'ai regardé autour de moi, pour être sûr qu'il me parlait. Oui, je peux vous aider, monsieur ? Je pensais qu'il allait râler parce que la salle était en désordre ou quelque chose comme ça. Ça vous dirait de vous faire $1000, chef ? Une heure de travail tout au plus. De l'argent facile, ça vous intéresse ? Oui. Les temps étaient durs à la maison, comme toujours. $1000 permettrait de régler certaines de ces factures en retard. Mais j'avais aussi un planning serré. Il ne me laissait pas beaucoup de temps pour respirer. C'est très bien, monsieur, ai-je dit. Mais je dois suivre mon planning. L'homme a rigolé. Nous sommes sur le point d'entrer dans l'histoire, chef. Et vous vous inquiétez de vider la poubelle des toilettes ? Allez, ne vous inquiétez pas. Vous n'aurez pas d'ennui, je vous le promets, je suis professeur ici. Je me porterai garant pour vous. Le type avait effectivement l'air d'un professeur, avec ses cheveux gris soigneusement peignés et ses grosses lunettes anciennes sur le visage. J'ai haussé les épaules, appuyé mon balai contre le mur et dit « Bien sûr, qu'est-ce que je dois faire ?»« C'est fantastique. Entrez, chef, entrez !» Je l'ai suivi dans la pièce. Un regard. Et j'aurais dû faire demi-tour et lui dire de garder son argent. Mais je ne l'ai pas fait. Dès que je suis entré, j'ai senti les petits poils de tout mon corps se dresser. Je ne veux pas dire que j'avais peur. Je veux dire qu'il y avait une charge électrique dans cette pièce. Et j'ai deviné d'où elle venait. Là, au centre de la pièce, sur une table ronde, se trouvait un grand globe en verre, crépitant d'électricité. Comme ce que vous voyez si vous allez dans un musée de sciences pour enfants. Comme s'ils avaient créé une tempête de foudre dans une boule de verre. Celle-ci vibrait sur son support et bourdonnait. Et l'éclair à l'intérieur était noir. Je pouvais sentir l'électricité qui en provenait de l'autre côté de la pièce. Il y avait 4 jeunes, des étudiants je suppose, assis dans une rangée de chaises le long d'un mur. Plus qu'assis, ils étaient attachés à ces chaises, avec des trucs en métal sur la tête, comme ces gros bols qu'on voit dans les salons de coiffure. Ils avaient tous les yeux fermés. Qu'est-ce qui se passe ici ? Ces gamins vont bien ?
Ils vont très bien, a dit le professeur. Quant à ce qui se passe ici, comme je l'ai dit, nous sommes sur le point d'entrer dans l'histoire. Nous allons ouvrir le premier trou de verre.
Un trou de verre ? Comme dans les films ? Le professeur a rigolé.
Je suppose que oui, chef,
a-t-il dit.
Maintenant, écoutez. Nous avons une annulation de dernière minute. Mais ce n'est pas grave, car c'est un travail facile. Nous allons donner le coup d'envoi sous peu. Et une fois bien lancé, le vortex s'ouvrira. J'y entrerai. Si je ne suis pas de retour dans 30 minutes, vous devrez tirer ce levier là. Et ça fermera le vortex.
J'ai regardé l'endroit qu'il désignait. Un gros levier rouge attaché à une machine géante et vomissante qui était reliée au bol métallique au-dessus de la tête des élèves.
Mais ce ne serait pas vous piéger de l'autre côté du vortex ? J'ai demandé. Non pas que j'avais la moindre idée de ce qui se passait. Tout à fait, chef. Nous n'avons que 2 possibilités. La première, le vortex s'ouvre sur ce que nous appelons le second univers. La meilleure façon dont je peux expliquer cette possibilité est qu'il y a une réalité différente qui existe de l'autre côté de celle-ci. L'autre côté d'un mur invisible. Le vortex fournira une porte dans ce mur.
Et l'autre possibilité ?
Que le vortex s'ouvre sur un endroit où l'homme n'est pas censé aller. 30 minutes me donneront assez de temps pour entrer et sortir. Si la première possibilité est vraie.
Et si c'est la seconde ?
Alors vous fermerez le trou avec ce levier. Et mes étudiants détruiront mon travail.
Tout ça était bien au-dessus de mes compétences. Et j'avais la tête qui tournait. Pourquoi seulement 2 possibilités ? Et si c'était vrai ? Pourquoi le professeur prendrait-il le risque de se retrouver coincé dans l'endroit où l'homme n'est pas censé aller ? Je veux dire, ce n'était que des questions pour commencer, parmi l'essaim qui bourdonnait dans ma tête.
Je vois que vous avez quelques réserves, a dit le professeur. Je vous assure que votre seul travail consiste à tirer ce levier au bout de 30 minutes. C'est tout, chef. Nous nous occupons du reste. Et tout ce qui se passe n'est pas de votre ressort. Les papiers sont tout à fait en ordre. Il tapota un dossier qui se trouvait sur la table circulaire. Et vous savez quoi? Je vais vous faire votre chèque, maintenant, avant de commencer. Pendant qu'il rédigeait le chèque, je me suis demandé s'il serait encore valable s'il était avalé par le Vortex. J'ai vraiment eu cette pensée, aussi fou que cela puisse paraître. C'était encore tellement bizarre et abstrait pour moi à ce moment-là. Voilà, a-t-il dit en me tendant le chèque. On y va, chef. Dès que j'entre dans ce trou, donnez-moi exactement 30 minutes, à l'heure pile. C'est tout ce que vous avez à faire. J'ai pris le chèque, marmonné un merci, et je l'ai regardé se diriger vers la machine. Il a tiré le levier. Il y a eu un fort craquement, et j'ai regardé avec inquiétude les yeux des étudiants s'ouvrir un par un. Ils n'avaient pas de pupilles, comme si leurs yeux étaient rentrés dans leurs orbites. Attendez une seconde, ai-je dit en faisant un pas vers la machine. Ils vont très bien, a dit le professeur. Je vous l'assure. Leurs mâchoires ont commencé à bouger, comme s'ils grinçaient des dents. Le professeur a pris un pot liquide bleu néon sur une étagère sur le mur. Il a dévissé le couvercle et l'a versé sur le globe électrique sur la table ronde. La chose a commencé à s'emballer. Puis le globe s'est complètement brisé. Des morceaux de verre volaient dans les airs tandis que des éclairs noirs se propageaient dans la pièce. Je me suis baissé vers le sol par réflexe. J'en avais assez à ce moment-là. Et j'étais prêt à foutre le camp. Puis c'est arrivé. Un putain de trou noir est apparu au milieu de la pièce, aspirant les éclairs d'électricité. Il est devenu de plus en plus grand, jusqu'à occuper la moitié de la pièce. Tout ce que j'entendais, c'était un bruit sourd, comme si le plus grand aspirateur du monde fonctionnait à plein régime.
« N'oubliez pas, chef !»
a crié le professeur d'un air sévère.
« 30 minutes, exactement !»
Puis il est entré dans la chose et a disparu. Au début, mon esprit était confus. Je regardais ce trou qui semblait vouloir tout aspirer. J'ai regardé ces gamins branchés à la machine, leurs yeux étaient retournés, des trous blancs, leurs mâchoires grinçaient à tout rompre. Ce qui se passait était incompréhensible. J'ai baissé les yeux sur ma montre. 15 minutes et 30 secondes s'étaient écoulées depuis que le professeur avait été englouti par le trou de verre. Mon cœur battait la chamade et je faisais les 100 pas, en essayant de comprendre ce qui se passait. Puis j'ai commencé à y voir clair. On me faisait un canular. Pas un canular comme on faisait quand on était gamin, en mettant de la merde de chien sur le perron de quelqu'un et toutes ces idioties. Non, je veux dire un canular comme ceux que font les étudiants sophistiqués, où ils vous disent que quelque chose se passe, mais le but est d'observer votre réaction. Une expérience psychologique. Il y a probablement des caméras ici qui me regardent en ce moment, observant ce que je fais. Plus que 12 minutes. J'ai vu un filet de sang couler du nez d'un des étudiants. Je me suis penché pour le regarder de près. Il tremblait un peu de partout. Si j'appuyais sur ce levier, tout allait probablement s'arrêter. C'était peut-être ça le test. Je devais décider entre piéger le professeur dans le trou noir et sauver les gamins branchés aux machines. Rien de tout cela n'était réel, bien sûr, mais il ne savait pas que je savais. Mais alors, au fond de mon esprit, il y avait cette voix qui criait. Et si c'était réel? Il restait 10 minutes. Le professeur m'avait promis que les gamins allaient bien. Un autre a commencé à saigner du nez. Si ce n'était pas réel, c'était un sacré tour. Et où était passé le professeur? Si ce n'est par ce trou noir. J'ai pensé à le toucher, mais dès que je m'en approchais, j'étais envahi par la terreur. Ça avait l'air réel, comme s'il vous emmenait vraiment dans un endroit très, très loin d'ici. Je me suis dirigé vers la table et j'ai pris le dossier qui s'y trouvait. Comme l'avait dit le professeur, la première page contenait des instructions pour éteindre la machine et la détruire s'il ne revenait pas dans 30 minutes. J'ai retourné la page et la suivante contenait la photo d'un des étudiants. J'ai lu ce que ça disait. C'était un formulaire de consentement. Je, Jackson Stewart, reconnais la possibilité de ma mort imminente si je participe à cette expérience. Je suis prêt à donner ma vie à la science. J'ai tourné cette page. Et il y en avait trois autres comme celle-là. Je ne suis pas avocat, mais il était impossible que cette expérience soit légale, si elle était réelle, même avec des formulaires de consentement. Donc ce n'était probablement pas réel. Et si ça l'était? Alors le professeur m'a menti. Il avait dit que les gamins iraient bien. Mais ce dossier me disait exactement l'inverse. Plus que 2 minutes. J'ai pris une profonde aspiration et j'ai fait les 100 pas dans la pièce, regardant chaque seconde passer. Mon esprit me disait que rien de tout cela n'était réel. Mais mes tripes hurlaient d'horreur. J'ai juste regardé ma montre. Ce serait bientôt fini, d'une manière ou d'une autre. 30 secondes. Je me suis approché de la machine et j'ai mis ma main sur le levier. Bon sang. Pourquoi attendait-il le dernier moment? J'ai regardé les secondes défiler et je ne savais pas si je pouvais le faire. Je ne savais pas si je pouvais prendre le risque de piéger le professeur ou qu'il soit parti. 5 secondes. Ma main tremblait. 4 secondes. La sueur coulait sur mon visage, dégoulinant dans mes yeux. 3 secondes. Un des étudiants a commencé à gémir. Celui que j'ai vu qui s'appelait Jackson dans le dossier. 2 secondes. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. 1 seconde. Jackson a commencé à trembler. 0 secondes. Merde. J'ai tendu mes muscles pour tirer le levier. Un regard à Jackson, et je savais que je devais le faire. Il se secouait violemment maintenant.
Attendez!
J'ai tourné mon cou pour voir la tête du professeur sortir du trou noir.
Attendez, bon sang!
Puis ses épaules ont traversé. Je me suis retourné vers Jackson. Du sang coulait de ses yeux.
Juste encore 1 seconde!
Un deuxième gamin s'est mis à trembler. J'ai finalement vu le professeur sortir entièrement du trou noir. Il était de retour dans la salle.
Faites-le!
A-t-il crié. 2 choses se sont produites après ça, exactement au même moment. J'ai entendu un bruit sec et humide, et j'ai vu le vortex disparaître, comme s'il n'avait jamais existé. Sauf que je n'avais pas tiré le levier. Je me suis lentement tourné pour regarder Jackson. Sa tête n'était plus là. À en juger par les morceaux de cerveau et les éclaboussures de sang dans toute la pièce, sa tête venait d'exploser. Le ronronnement de la machine s'est progressivement arrêté. Puis le silence s'est installé. Les 3 étudiants qui étaient encore en vie ont arrêté de trembler et ont fermé les yeux.
Une tragédie,
a dit le professeur en désignant Jackson, avec la tête explosée.
Mais pas pour rien.
Je suis passé par là. Je l'ai vu, chef, je l'ai vu. Je me suis recroquevillé et j'ai vomi. C'était bizarre, mais ma première pensée a été « Je vais devoir nettoyer tout ce bordel plus tard. » Je ne sais pas. Je suppose que mon esprit s'était en quelque sorte arrêté et que j'étais en pilote automatique. J'étais le concierge. Je nettoyais la saleté. C'est tout ce que je savais faire. Puis ça m'a frappé. La réalité de ce qui s'était passé.
Espèce d'enfoiré! Tu m'avais dit que ces enfants iraient bien!
Le professeur affichait un sourire suffisant et écœurant.
Il l'aurait été, chef, si vous aviez tiré le levier au bout de 30 minutes, comme prévu.
Vous m'avez dit d'attendre.
Je vous ai dit ça?
Oui, enfoiré! J'appelle la police.
J'avais un talkie-walkie accroché à ma ceinture. Il ne m'aurait pas permis d'appeler la police, mais il aurait permis d'appeler la sécurité du campus. Je l'attrapais et l'avais en main quand j'ai entendu un gémissement derrière moi. Je me suis retourné pour voir que c'était un des étudiants. Ils se réveillaient tous. Je me suis approché pour les détacher des chaises. La première étudiante a ouvert les yeux, et quand elle a vu le professeur, elle a commencé à crier.
C'est bon, c'est fini, c'est bon, tout va bien.
Elle a continué à crier, puis le deuxième s'est réveillé. Il m'a regardé avec des grands yeux terrifiés.
« Sortez-nous de là »
a-t-il crié.
« J'y travaille, petit »
ai-je dit, en tâtonnant les sangles. Elles étaient bien serrées. La 3e étudiante s'est réveillée.
« C'est là » a-t-elle dit. « Il est passé à travers. »«
Tout va bien maintenant. » Ai-je dit. Ton ami ne s'en est pas sorti, j'en ai peur. Mais c'est fini. Je vais m'assurer que le professeur paie pour ce qu'il a fait à toi et tes amis. La première étudiante criait toujours à plein poumon.
Sortez-nous d'ici !
A encore crié le deuxième. La troisième m'a regardé droit dans les yeux. Et d'une voix très calme, elle m'a dit. Ce n'est pas le professeur.
Quoi ?
Bien sûr que c'est lui, ai-je dit. Ce que j'ai vu quand je me suis retourné pour regarder le professeur me hantera à jamais. La bouche du professeur se tordait à des angles bizarres, comme si quelque chose faisait bouger la moitié inférieure de sa mâchoire de façon aléatoire, ou comme s'il essayait de faire sortir de sa bouche un cheveu qui ne cessait de sauter à l'intérieur. Les veines de son cou se gonflaient, puis redescendaient, puis se gonflaient à nouveau, de sorte qu'elles étaient épaisses comme des cordes. Ses poignets tournaient d'une manière qui n'était pas censée tourner, tandis que ses bras s'agitaient sauvagement. J'ai libéré le premier étudiant, celle qui criait. Elle a sauté de la chaise et a couru vers la porte, mais ses jambes étaient flageolantes, et elle a trébuché sur elle-même au milieu de la pièce. J'ai commencé à m'occuper du deuxième étudiant, en retournant toutes les secondes pour regarder le professeur. On aurait dit qu'il y avait quelque chose qui rampait sous sa peau. Quelque chose de gros.
« Sortez-nous d'ici !»
a encore crié le deuxième étudiant. La première était toujours sur le sol, en train de crier. Je travaillais aussi vite que possible sur ses sangles. « Si vous croyez en Dieu, » a dit la troisième, avec un calme étrange, « alors priez. » J'ai jeté un coup d'œil au professeur, et c'est là que le premier os a éclaté de sa poitrine, à travers son costume. J'appelle ça un os, mais il était d'un noir pur et dégouliné de bave verte. Quant à moi, je ne crois pas qu'il y ait un dieu. Pas après ce que j'ai vu, a dit la troisième étudiante. Le deuxième étudiant était libre et s'est enfui. Je me suis approché de la troisième et j'ai vu le professeur tendre un bras et attraper le deuxième par le haut de sa tête. Le professeur a fait un tour rapide de la main et a lâché prise. J'ai entendu un terrible craquement, et le gamin s'est effondré sur le sol. Mort. Trois autres de ses os noirs sont sortis de la poitrine du professeur, dégoulinant. Il s'est mis à rire, et s'est penché vers la première gamine qui hurlait toujours, alors que les os commençaient à sortir de son dos comme un putain de stégosaure de l'enfer.
Putain, c'est quoi ce truc ?
J'ai demandé, en tâtonnant les sangles du dernier étudiant. Il n'a rien à faire ici. A dit l'étudiante.
Sans blague, j'ai dit en libérant une sangle. Mais qu'est-ce que c'est ?
Ça vient d'un endroit horrible. Un endroit où il n'y a rien d'autre que la douleur. Une douleur sans fin. Incompréhensible pour nos esprits.
Super.
Ai-je marmonné, en remarquant avec un pincement de cœur que les cris de la fille derrière moi avaient cessé. Puis j'ai entendu un craquement humide. Je n'ai pas pu m'en empêcher. J'ai regardé derrière moi, pour voir le professeur déchirer la gorge de cette pauvre jeune fille, avec de longs crocs noirs, dégoulinant de bave verte. Je me suis retourné vers la troisième. J'avais presque fini avec les sangles. Plus que quelques secondes.
Comment tu t'appelles au fait, gamine ?
Claire.
Claire ?
Ai-je dit, mon esprit essayant de rester concentré.
Quand je t'aurai enlevé ces sangles, je veux que tu prennes cette chaise et que tu la jettes sur cette chose, d'accord ?
Je ferai la même chose, ok ?
Puis on s'enfuit. Est-ce que tu comprends ? Tu peux faire ça ?
Je comprends, a dit Claire. J'espère que ça va marcher. J'espérais aussi que ça marcherait.
Il faut que ça marche, Claire.
Et je dis en arrachant les dernières sangles.
Viens.
On s'est levé ensemble, et j'ai attrapé une chaise. Je l'ai lancée sur le professeur de toutes mes forces. Et elle s'est brisée contre son dos osseux. J'ai entendu un cri terrible, et j'ai vu la chaise de Claire suivre. J'ai attrapé le bras de Claire d'une main et mon couteau de poche de l'autre. La seule façon de sortir de cette pièce était de passer devant le professeur. Nous nous sommes mis à courir. J'ai sorti le couteau et je l'ai brandi. Le professeur était debout, hurlant toujours, tandis que la bave verte se mélangeait au sang rouge de la gorge du gamin et dégoulinait de son menton. J'ai donné un coup de couteau sauvage au cou du professeur. Et je l'ai touché. J'ai continué à courir avec Claire, laissant le couteau planté dans le cou du professeur. Et je suis arrivé à la porte. J'avais la main autour de la poignée quand j'ai senti Claire s'éloigner de moi. Je me suis retourné et j'ai vu le professeur planter de longues griffes noires dans son ventre. J'ai ouvert la porte et je l'ai laissé là. Bon Dieu, je l'ai laissé là. J'ai réussi à sortir du bâtiment du laboratoire d'une manière ou d'une autre. Je ne me souviens même pas comment. Mon esprit s'est éteint pendant que je courais comme un dératé, je suppose. J'ai eu la présence d'esprit de faire le tour et de verrouiller toutes les portes de l'extérieur. Puis j'ai contacté par radio la sécurité du campus. Vous devez envoyer la police au centre d'astrophysique le plus vite possible. Il y a un putain de massacre là-dedans. La porte d'entrée s'est mise à claquer et j'ai entendu ce cri affreux à nouveau.
Répétez ?
A dit une voix dans le talkie-walkie. Écoutez, ai-je dit. Appelez Lawrence Summers tout de suite. C'était le président de Harvard à l'époque, et j'avais vu sa signature sur les papiers dans ce dossier, avec tous les formulaires de consentement. Dites-lui que l'expérience sur les vortex a foiré. Le cliquetis de la porte s'est arrêté. J'ai seulement prié pour que cette chose ne comprenne pas qu'elle pouvait casser une fenêtre et sortir en rampant.
C'est le concierge ?
L'expérience sur les vortex ? Vous avez picolé ou quoi ?
Appelez Lawrence Summers. Si vous ne le faites pas, je vous promets que vous ne pourrez jamais vivre avec vous-même. Faites-le maintenant.
Il y a eu une interminable pause. J'ai entendu le professeur essayer la porte latérale, hurlant à nouveau. Bien reçu. Une flotte de SUV noirs s'est arrêtée 2 minutes plus tard. Une équipe d'hommes lourdement armés en est sortie et a couru devant moi, brisant la fenêtre et sautant à l'intérieur. J'ai entendu un flot de coups de feu et des cris, tellement de cris, et l'hurlement horrible du professeur. Après un moment, c'est redevenu calme. Et une deuxième équipe d'hommes a sauté par les fenêtres cassées. Je n'ai plus entendu de coups de feu. J'ai senti une main sur mon épaule et je me suis retourné. Un homme se tenait là. Je ne me souviens pas du tout ce à quoi il ressemblait, mais je me souviens de notre conversation. « Dites-moi ce qui s'est passé », a-t-il dit. Je lui ai raconté toute l'histoire, la même que celle que je vous ai racontée. « Nous sommes prêts à vous donner beaucoup d'argent pour signer une NDA. »
« Une NDA ?»«
Pour faire simple, un accord de non-divulgation. Cela signifie que vous ne pourrez jamais dire à personne ce qui s'est passé ici ce soir. »«
Combien ?»
$1 million. Et une promotion. L'homme a fait une pause. Vous voulez dire que vous voulez toujours travailler ici? Après ce soir?
Il faut bien que quelqu'un nettoie la merde. Et je dis.
Bien. Bien sûr.
Et encore une chose.
Je vous écoute.
Je veux être sûr que ça ne se reproduira plus jamais. Je veux que vous fassiez sauter toute cette merde et que vous brûliez toutes les notes.
Bien sûr.
Et je veux regarder.
Bien sûr.
Et donc, je pensais que c'était fini. Mais ce n'est pas le cas. La nuit dernière, j'ai revu le professeur. Il m'a regardé droit dans les yeux, avec ce sourire suffisant, et a dit...
Hé là, chef.
C'est là que je me suis enfui en courant. La police ne me croit pas. J'ai envoyé une douzaine d'emails aux assistants de Lawrence Summers. J'ai appelé tous les numéros que j'ai trouvés dans sa liste. Je n'ai pas eu de réponse. Je ne sais pas vers qui d'autre me tourner. J'ai peur que le professeur n'ouvre à nouveau le vortex. Et j'ai peur que cette fois... ils n'en reviennent pas seuls. Et c'est sur cette histoire que nous nous quittons. Si vous souhaitez pouvoir écouter d'autres histoires effrayantes et supporter le podcast, alors abonnez-vous dès maintenant et partagez cet épisode. Vous pouvez aussi laisser une note sur Spotify ou Apple Podcasts.
En attendant de nous revoir dans un prochain épisode, je vous souhaite une bonne soirée et n'oubliez pas, méfiez-vous des ombres.